À l'égard en effet de ce qui constitue la forme du vrai, il est certain qu'une pensée vraie ne se distingue pas seulement d'une fausse par un caractère extrinsèque, mais principalement par un caractère intrinsèque. Si quelque ouvrier, par exemple, a conçu un ouvrage bien ordonné, encore que cet ouvrage n'ait jamais existé et ne doive jamais exister, la pensée ne laisse pas d'en être vraie. Et cette pensée reste la même que cet ouvrage existe ou non. Au contraire, si quelqu'un dit que Pierre, par exemple, existe, sans qu'il sache que Pierre existe, cette pensée est fausse en ce qui concerne celui qui la forme, ou, si l'on préfère, n'est pas vrai encore que Pierre existe réellement. Et cette énonciation, Pierre existe, n'est vraie qu'en ce qui concerne celui qui sait avec certitude que Pierre existe. D'où suit qu'il y a dans les idées quelque chose de réel par quoi les vraies se distinguent des fausses. Et nous devons maintenant diriger notre enquête sur ce point afin d'avoir meilleure norme de vérité. Nous avons dit en effet qu'il nous fallait déterminer nos pensées selon la norme donnée de l'idée vraie et que la méthode est la connaissance réflexive, et de connaître les propriétés de l'entendement. Il ne faut pas dire d'ailleurs que la différence provient de ce que la pensée vraie consiste à connaître les choses par leur première cause, en quoi elle différerait beaucoup de la vérité d'une fausse, la nature de la pensée fausse étant telle que je l'ai expliquée ci-dessus. Car on appelle aussi pensée vraie celle qui enveloppe objectivement l'essence d'un principe, qui n'a pas de cause et est connue en soi et par soi. La forme de la pensée vraie doit donc être contenue dans cette pensée même sans relation à d'autres. Et elle ne reconnaît pas comme cause un objet, mais doit dépendre de la puissance même et de la nature de l'entendement. Si nous supposions en effet que l'entendement eût perçu quelque être nouveau n'ayant jamais existé, comme le faisait, selon certains, l'entendement de Dieu avant qu'il eût créé les choses, et cette perception ne peut assurément provenir d'aucun objet, et que de cette perception, il en eût déduit légitimement d'autres. Toutes ces pensées seraient vraies, et ne seraient déterminées par aucun objet extérieur, mais dépendraient seulement de la puissance et de la nature de l'entendement. Pour diriger notre enquête, posons-nous devant les yeux quelque idée vraie, dont nous sachions avec la plus haute certitude que l'objet dépend de notre pouvoir de penser, et n'a pas d'objet dans la nature. C'est dans une idée de cette sorte que nous pourrons plus facilement, comme il suit clairement de ce qui précède, faire notre enquête. Par exemple, pour former le concept d'une sphère, je forge une cause à volonté, à savoir qu'un demi-cercle tourne autour d'un centre et qu'une sphère est comme engendrée par cette rotation. Certes, cette idée est vraie, et bien que nous sachions que nulle sphère n'a jamais été engendrée de la sorte dans la nature, c'est là cependant une perception vraie et le moyen le plus aisé de former le concept d'une sphère. Il faut noter d'ailleurs que cette question affirme la rotation du demi-cercle, affirmation qui serait fausse si elle n'était pas jointe au concept de la sphère ou à celui de la cause déterminant le mouvement, c'est-à-dire parlant absolument si elle était isolée, car l'esprit en pareil cas se bornerait à affirmer le mouvement du demi-cercle. Ce mouvement n'étant ni contenu dans le concept du demi-cercle, ni issu de la cause déterminant le mouvement. La fausseté consiste donc en cela seul, qu'il est affirmé d'une chose quelque chose qui n'est pas contenu dans le concept que nous avons formé de cette chose, tel le mouvement ou le repos dans le cadre du demi-cercle. D'où il suit que les pensées simples ne peuvent pas être vraies, telle l'idée simple d'un demi-cercle, du mouvement, de la quantité, etc. Ce que ces pensées contiennent d'affirmations atteint, sans les dépasser, les limites du concept. Nous pouvons donc, à notre gré, sans avoir d'erreur à craindre, former des idées simples. Il ne nous reste donc qu'à chercher par quelle puissance notre esprit peut former ces idées et jusqu'où s'étend cette puissance. Cela trouvé, en effet, nous aurons facilement la connaissance la plus haute à laquelle nous puissions parvenir. Car il est certain que cette puissance de l'esprit ne s'étend pas à l'infini. Quand nous affirmons de quelque chose ce qui n'est pas contenu dans le concept que nous en formons, cela indique en effet qu'il y a en nous un manque de perception. C'est-à-dire que nos pensées ou nos idées sont mutilées en quelque sorte et tronquées. Nous avons vu que le mouvement d'un demi-cercle est faux sitôt qu'il est isolé dans l'esprit et qu'il est vrai s'il est joint au concept de la sphère ou à celui de quelque cause déterminant un tel mouvement. Que si, comme on le voit d'abord, il est de la nature d'un être pensant de former des pensées vraies, c'est-à-dire adéquates, il est certain que nos idées inadéquates ont pour unique origine que nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées dans leur intégrité, certaines seulement par partie, constituent notre esprit.